Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre. Il est cinéaste et écrivain, romancier même. Il explore les thèmes les plus romanesques. La dernière fois, il nous racontait une histoire de super-héros français. Il revient avec Les Jours Sauvages, au seuil des Jours Sauvages, une histoire de naufragés. Et j'adore les histoires de naufragés. Chabi Molia est notre invité aujourd'hui. Je vous annonce la suite du programme quand même. Le roman culte, bien sûr, Sa Majesté des Mouches, chef-d'œuvre culte de William Golding. L'histoire d'un groupe d'ados bien élevés sur une île déserte et leur éducation ne résistera pas très longtemps. Nous lirons la première page. Nous visiterons la bibliothèque de Stéphane Bern aujourd'hui. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Des jours sauvages, c'est le titre donc du nouveau roman de Chabi Molia, au seuil. Chabi, X-A-B-I, c'est du bon, c'est du basque. Dans ce roman donc, une épidémie décime l'Europe. Tiens, je vous le dis tout de suite, le roman a été écrit bien avant la Covid. Mais donc, un groupe de personnes a fui la menace par la mer. Tempête, naufrage, les voilà sur une île, en sécurité, mais coincés. On ne sait pas ce qu'il advient de l'Europe. Au bout de quelques temps, deux équipes se forment, ceux qui guettent d'éventuels paquebots à l'horizon pour les sortir de là, ou qui veulent fabriquer eux-mêmes des bateaux, et ceux qui, au contraire, veulent à tout prix rester sur cette île et empêcher au passage les autres de partir. Bon point de départ. Bonjour Chabi Molia.
Bonjour. Bonjour.
J'évacue tout de suite la question. Le roman a été écrit donc bien avant l'apparition de l'épidémie de Covid. Ça a dû vous faire une drôle d'impression quand même en février dernier.
Oui, c'était vertigineux, surtout que j'étais en train de terminer le livre, c'est-à-dire de relire ce qu'on appelle les épreuves. Le livre est déjà mis en page quand je me suis retrouvé moi-même confiné en plus sur un bout de landes sauvages de Bretagne, donc devant un océan vide, sous un ciel vide, avec personne autour de moi. Donc j'étais dans la situation quasiment celle de mes personnages.
À un moment, il y a un des personnages, un des leaders, au début d'ailleurs, qui dit « Un confinement, ça peut durer, tant qu'on ne sait pas, pas le droit de pleurer ».
Oui, c'est d'ailleurs une des seules phrases, une des seules retouches que j'ai faites.
Ah, c'était après.
J'étais en train de relire et je me suis dit, mais en fait, ce qui change complètement la lecture de mon livre, c'est que je pensais écrire un roman d'anticipation. J'avais entendu parler de ces épidémies qui nous menaçaient, qui faisaient que si notre civilisation est vulnérable à quelque chose, c'est à la maladie.
Vous aviez déjà écrit sur le sujet d'ailleurs.
J'avais écrit sur le sujet, voilà, parce que l'effondrement m'intéresse et c'est vrai que quand on se penche un peu rigoureusement sur ce qui nous menace, en fait, on arrive assez vite à la question de l'épidémie. Ça fait longtemps que les scientifiques le disent. Et tout d'un coup, ce roman d'anticipation, n'en était plus un. C'était une expérience radicale de quelque chose qui était en train de se produire au présent. Donc je me disais, mes personnages, ils ont forcément la mémoire de 2020. Et il y en aura forcément un pour dire, vous savez, ouais, les confinements, ça peut durer.
Alors bon, c'est le principe d'un roman de naufragé comme Robinson, comme Sa Majesté des Mouches, dont on parlera tout à l'heure. C'est un bon moyen de révéler la nature humaine. Et vous êtes ce que j'appelle un écrivain laborantin, c'est-à-dire que... C'est mon point de vue. J'ai l'impression que vous aimez créer des contextes pour regarder les petites bêtes bouger et voir comment ça fonctionne. C'était cette envie-là au départ de créer cette boîte de culture d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai. Alors le mot laboratoire, en fait, j'en trouve pas d'autre. Il m'embête un peu parce que il y a quelque chose de froid dans le laboratoire. Moi, des romans laboratoires, je me dis, ça risque d'être des choses comme ça, un peu théoriques, un peu cérébrales. Donc c'est pas ça. Moi, j'essaye vraiment d'être avec mes personnages, leurs émotions, leurs tourments. Mais en même temps, j'ai cette sensation que l'imaginaire du roman, c'est effectivement emmener le réel à un endroit où il n'est pas et produire une sorte de réaction chimique. Qu'est-ce que devient la société française quand des super-héros apparaissent? Qu'est-ce que devient la société française quand la maladie rebat comme ça les cartes du monde connu? Vous avez le réel, votre réel, qui tout d'un coup est comme mieux révélé, ou en tout cas révélé autrement, éclairé autrement par une situation extraordinaire.
Mais là, en plus, ce n'est pas tellement l'épidémie, le sujet. C'est un point de départ pour les faire fuir sur cette île.
Le point de départ, c'est l'île. J'avais envie, mais comme beaucoup de gens, je crois, j'avais envie de m'enfuir. J'avais envie de que mon œuvre littéraire aussi s'enfuit du territoire que je connaissais déjà. Et j'aimais les Robinsonnades. Alors on en reparlera peut-être. Pourquoi est-ce qu'on aime autant les îles et les histoires de Robinsonnades ? C'est étrange. J'avais envie de passer du temps loin de France. Et l'épidémie est venue vraiment simplement expliquer comment une centaine de personnes peuvent si longtemps aujourd'hui rester dans notre monde. Ce que je ne savais pas en fait quand j'ai commencé à écrire le livre, parce que le mot n'était pas encore si courant dans notre société, c'est que j'étais en train en fait d'écrire un livre sur l'effondrement. Ce terme qui est devenu assez présent dans les médias, c'est-à-dire sur la possibilité...
Collapsologie.
Voilà, alors j'ai pas de point de vue sur la question, je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis romancier, mais c'est vrai que cette idée que le monde qu'on connaît pourrait s'effondrer, que nos repères quotidiens pourraient complètement être bouleversés, je suis pas sûr que les gens d'il y a 30 ans vivaient avec cette sensation-là. Et nous, on vit avec cette hypothèse désormais.
Et oui, alors ça va faire un peu philosophe, mais c'est aussi un roman sur le rapport entre la nature et l'homme, mais aussi... C'est un roman sur la nature de l'homme et les deux qui se conjuguent.
Oui, alors simplement...
Oh
moi,
j'ai mal au cerveau.
Non, mais je ne suis pas essayiste. Donc, si vous voulez, quand j'attaque un roman, je n'ai pas une thèse que mon roman va venir illustrer.
Ah oui, il n'y a pas de morale.
J'ai la certitude que j'écris effectivement sur la nature humaine et qu'elle va se révéler d'une manière très nette dans des circonstances aussi extrêmes. Mais je ne saurais pas vous dire si l'homme est profondément mauvais ou profondément sauvage. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les individus, ce sont les trajectoires particulières. Et en fait, le roman, c'est ce lieu où vous pouvez faire exister justement des parcours différents, des points de vue contradictoires et je dirais presque même des notions opposées de ce que pourrait être la nature humaine.
Mais on parle de Robinsonnade et de Robinson, en fait c'est tout sauf Robinson, parce que ce qui vous intéresse aussi c'est les groupes, et Robinson lui il est tout seul, bon, jusqu'à ce qu'il rencontre Vendredi, mais l'idée de Robinson c'est qu'est-ce que fait un homme seul, comment il se retrouve avec lui-même. Là ce qui vous intéresse c'est le groupe, et c'est pas comme dans Lost où il y a une poignée de gens, c'est... Là, il y a quand même une centaine de personnes, ça fait un nombre. Quoi.
Oui, il y a une centaine de personnes, et ce qui se pose tout de suite, c'est des questions en fait, qui sont des questions fondamentales dans nos vies. Par exemple, la question de la justice ou la question du pouvoir. Comment vous allez punir un saboteur ? Le roman s'ouvre sur un incendie, un homme, on ne sait pas qui, on soupçonne très vite que c'est Guilhem, a mis le feu à des radeaux qu'on était en train de construire. Il faut le punir très sévèrement puisqu'il a condamné quasiment tout espoir de quitter cette île. Mais comment vous allez le punir si vous n'avez pas de juge, si vous n'avez pas de livre de loi,
de prison.
Si vous n'avez pas de prison, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pareil avec la démocratie, comment on s'organise, qui vote, à partir de quel âge ? On reprend exactement les règles qu'on suivait en France, c'est ce qu'on essaye de faire au début, mais on se rend bien compte que la situation demande de nouveaux ajustements.
Alors il y a ceux qui veulent partir, ça c'est facile. On les connaît, c'est le principe des naufragés. En général, dans un roman, ils font tout pour quitter cette île maudite. Mais il y a, comme Guilhem, des gens qui veulent rester. Pourquoi certains veulent absolument rester sur l'île, Chabu Molia ?
Mais je crois que c'est ce qui fait peut-être aujourd'hui l'actualité d'une Robinsonnade. C'est qu'effectivement, Robinson Crusoe, il veut repartir, c'est évident pour lui. D'abord parce qu'il veut fuir la solitude, mais aussi parce qu'il aime la civilisation qu'il vient de perdre. Et je crois que ce qui fait la particularité de notre époque, c'est qu'on vit dans un monde dont on n'est plus très sûr qu'il soit habitable et dont on sent qu'il l'est peut-être de moins en moins, année après année. Et donc la question de quitter le monde n'est pas forcément une malédiction. Je veux dire, je crois qu'on a tous en fait cette tentation particulière, parce qu'en même temps c'est une souffrance, mais cette tentation de se dire « et si je quittais tout ?» Et si je me réinventais ailleurs ? Et il faut un ailleurs pour ça. Et l'île, c'est ce que ça permet. L'île, c'est le lieu de l'isolement et c'est aussi le lieu de la rupture.
Mais cette fuite-là, c'est du courage ou de la lâcheté ?
Ben, c'est la vraie question. C'est-à-dire, moi qui suis comme ça tenté par... je suis fasciné par les vies d'ermites. J'ai toujours cette idée que je vais un jour m'installer tout seul dans une bergerie basque. Et puis ma compagne me dit, mais enfin, tu sais même pas couper du bois, tu vas mourir au bout de 15 jours.
Et puis t'es gentil, enfin... moi je viens pas, quoi.
Mais en tout cas, je crois qu'il faut une certaine bravoure pour envisager de tout changer. Voilà. Et donc, ces hommes et femmes qui font le choix de rester, on va voir comment... Ça passe par une forme de violence, hein. Donc il y a quelque chose de très sombre dans leur désir d'empêcher quiconque de repartir. Et en même temps, moi je ne peux pas m'empêcher en tant que romancier d'aimer mes personnages, et ce que j'admire chez certains d'entre eux, c'est cette force d'âme qui consiste à se dire « et si on changeait tout ?» Jusqu'au langage qu'on va parler, jusqu'à la manière dont on va considérer les corps, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports avec les animaux, etc.
C'est l'occasion.
Voilà.
Eh bien, on reste aussi sur cette île avec vous, Chabi Molia. On se retrouve dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Chabi Molia pour Des jours sauvages au seuil, l'histoire d'un groupe de personnes naufragées sur une île tandis qu'une épidémie fait rage en Europe. Deux groupes, ceux qui cherchent à quitter l'île et rejoindre l'Europe en espérant que l'épidémie ait cessé, et le groupe des saboteurs qui font tout pour rester sur l'île et empêcher les autres de partir. Chabi Molia, on l'a dit tout à l'heure, le coût de l'île des naufragés, c'est un bon moyen pour révéler la nature humaine. C'est le matériau d'ailleurs principal de l'écrivain. Quelles sont les parts d'ombre et de lumière que votre île met en valeur? Quelles sont les conclusions de cette expérience d'une certaine manière?
Je ne sais pas, je crois que chaque lecteur m'en donnerait peut-être un avis différent. Ce qu'on voit apparaître, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand une utopie, on tente de la réaliser. Et on sait bien, le XXe siècle est plein de ces utopies tragiques, c'est-à-dire de ces moments où un monde parfait est envisagé et l'homme est en permanence défaillant, est toujours un être imparfait, toujours incapable d'atteindre son idéal. Et donc c'est un livre sur un grand rêve, le rêve d'une refondation, et en même temps ce rêve est très vite mélancolique, parce que ce rêve est impossible à atteindre.
Alors, ils vont vouloir à un moment donné du roman créer une société nouvelle avec des principes rousseauistes, on va y revenir, mais avant même l'élaboration d'une utopie, tout de suite, dans le contexte de danger, quand ils arrivent sur l'île, immédiatement, il y a des problèmes de violence, notamment il y a un groupe de types qui prend les fusils et qui décide qu'ils vont être les maîtres, ils vont décider quoi en fait.
En fait, l'expérience que j'ai faite, qui était un peu vertigineuse en tant que romancier, comme je vous l'ai dit, moi je ne décrète pas que mes personnages vont se comporter comme ceci ou comme cela en fonction d'une idéologie particulière, mais dont je me suis aperçu en écrivant cette histoire, c'est qu'il était très difficile d'échapper à la violence. Et c'est ça que j'ai trouvé presque glaçant. Et mes personnages sont plutôt des êtres réticents à la violence. Et je pense qu'en fait, on est la plupart d'entre nous réticents à la violence. On voudrait tous que ça se passe bien, que les problèmes se règlent de manière cordiale, raisonnable, etc. Et en même temps, à un moment donné, parce qu'on prononce certains mots, parce qu'on s'engage à dire « il faudra punir ce type-là » et on le punira sévèrement. Vous voyez, comme par petits crans successifs, on en arrive à ne plus pouvoir échapper à une forme de responsabilité terrible qui est celle de faire violence à autrui.
Mais donc vous n'aviez pas de plan et c'est au fur et à mesure de l'écriture que vous butiez sur une situation dans laquelle la violence était forcément présente.
Oui, c'est-à-dire, vous voyez, évidemment, j'écris pas au fil de la plume, il y a des chapitres, mais il y a des moments quand vous écrivez où la situation résiste au plan d'écriture, où c'est pas possible d'aller ailleurs. Et moi, étant avec ces personnages, je sentais bien que l'endroit où ils voulaient aller, c'était l'endroit de l'absence de violence, et que le livre ne pouvait pas aller là, que le livre devait, à un moment donné, en passer par la violence.
C'est l'autre versant qu'on explore aussi dans ce roman-là. Il y a la violence, mais il y a aussi l'amour. Mais l'un alimente l'autre, et vice-versa.
C'est un livre qui se passe sur une île qui est profondément hospitalière.
Je rappelle qu'il y a une centaine de personnes.
Oui, c'est ça. Et ce qui n'est pas le cas de toutes les îles. Hein. C'est une île qui est accueillante, c'est une île qui est généreuse, c'est une île où l'eau est tiède, où il fait bon se baigner. Et c'est une île aussi pour découvrir, se découvrir soi, et puis faire des rencontres et refaire sa vie. Le problème, c'est est-ce qu'on a le droit d'aimer celui du camp d'en face? Est-ce qu'on a le droit d'aimer quand on est celui qui veut partir? Est-ce qu'on a le droit d'aimer celui qui veut rester? Quand ce sont deux situations qui sont devenues absolument incompatibles.
Alors, ce qu'on observe tout de suite aussi, et plusieurs fois dans le roman, quand la situation repart à zéro d'une certaine manière, c'est la recherche d'un leader. Et c'est tragique, mais on s'aperçoit que le leader, enfin en tout cas au début, après ça change, mais au début, forcément, c'est celui qu'on appelle l'amiral, qui est à la fois le plus sage, le plus ancien, mais aussi le plus costaud. Et l'homme.
Ouais, c'est terrible. Hein. Et ça, c'est marrant parce que plusieurs lecteurs m'ont dit ça, m'ont dit mais c'est terrible en fait, cette société qui se recrée, elle a, tout de suite, elle a, elle a besoin d'un chef. Tout de suite, elle se structure d'une manière verticale. Alors là, c'est peut-être mon pessimisme qui parle, mais moi, j'ai l'impression que malheureusement, on n'en a pas fini avec les chefs. Et que d'ailleurs, dans notre vie démocratique, c'est étonnant la manière dont on cherche en permanence à requalifier un président de la République en monarque contemporain, et d'ailleurs à reprocher à un président qui, lui, déciderait de tomber l'habit du roi, on lui reproche sa normalité en disant « mais non, c'est
le président normal ».
Le président normal, c'est une contradiction dans les termes, etc. On n'en a pas fini, malheureusement, dans cette société qui a été si longtemps monarchique, on n'en a pas fini avec le goût du chef et on n'en a pas fini avec la domination des hommes.
Alors, je ne veux pas spoiler, mais ensuite... il y aura un autre leader qui va se dessiner avant l'utopie, c'est Albany, qui est une jeune femme qui est très douce, elle. Elle était peut-être là, la vraie utopie du roman, finalement.
Oui, c'est marrant parce que plus j'écris de livres et plus j'ai le goût de mes personnages. Plus, en fait, j'ai envie de raconter des histoires de personnes que j'admire, que j'aime. Même si elles ont des travers. Et avec Albany, j'ai eu pour la première fois l'impression de camper un personnage que j'aimais, mais au-delà de tout.
Et parce que
j'ai donné d'ailleurs le prénom de ma grand-mère, vous voyez, donc il y a vraiment un lien d'affection fort. Mais en fait, ce que j'admire chez elle, c'est que précisément, elle voudrait absolument éviter la violence et elle voudrait à tout prix se défaire de sa responsabilité de chef qui lui incombe. Il faut quelqu'un pour diriger les opérations, c'est elle, mais on sent bien que son cœur bat pour autre chose, pour une histoire d'amour impossible d'ailleurs, et on sent bien qu'elle aimerait, si elle pouvait, renoncer au pouvoir. Ce qui est au fond très rare chez les chefs qu'on connaît, le renoncement au pouvoir, et c'est très beau.
Alors ensuite, il y a Elorriaga, qui est un Basque, toujours sans spoiler, on fait attention, hein, mais qui va faire partie de cette dictature, mais enfin, au départ, c'est quand même une utopie. Quelle est-elle ? Est-ce que vous pouvez nous donner ces règles utopiques ? Et est-ce que ça correspondait au départ, avant que ce soit dévoyé, comme toute utopie, à vos aspirations ?
Oui, je crois que ce personnage, c'est un homme qui a un malaise existentiel depuis longtemps. Il n'est pas à sa place, il n'est pas satisfait de sa vie. Et sur cette île, il se met à rêver d'une situation... d'un mode de vie complètement différent, évidemment beaucoup plus proche de la nature. Il épouse en fait un certain nombre de nos aspirations et des miennes, hein, qui seraient celles de se débarrasser d'un certain nombre de carcans. Et il va essayer de bricoler avec les moyens du bord, bricoler un autre rapport au monde. Et pour lui, son intuition première, c'est que le langage qu'on parle est notre prison. Et c'est la fameuse phrase, moi, que j'ai entendue mille fois de Roland Barthes disant « la langue est fasciste ». On ne comprend pas très bien cette phrase, mais en fait, quand on s'y penche, oui. C'est-à-dire que tant qu'on parle avec le masculin et le féminin, tant qu'on parle avec le sujet et le verbe, tant qu'on considère que l'homme n'est pas un animal, vous voyez, en fait, on ne peut pas construire un autre rapport au monde. Et donc, il va se mettre à faire une sorte de police du langage et à dire « il faut arrêter de parler ». Donc on va parler de moins en moins, il y aura des quotas de mots chaque jour, on va essayer de supprimer les verbes, on va essayer de supprimer aussi les noms propres. Arrêtons de nous appeler par nos prénoms, on n'a pas choisi nos prénoms. Libérons-nous de ces identités arbitraires, etc. Donc moi,
ça vous donne envie, ça.
Ça me fait rêver, c'est un personnage de doux rêveur, mais comme beaucoup de doux rêveurs, il peut devenir impitoyable parce qu'il est résolu dans ses projets.
Il y a très peu, enfin, il n'y a pas ou peu de temporalité dans le roman. On ne sait pas bien combien de temps ça dure, on sait que c'est long. Hein. Mais c'était volontaire, ça, ou pourquoi, en fait ? C'est pour instaurer une sorte de flou, que ce soit nulle part et partout ?
Oh, c'est qu'il y a un effacement du temps qui est propre à ce type d'expérience insulaire. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir comment, pendant le confinement, certaines personnes perdaient le sens des dates, enfin vous voyez, dans la répétition des jours, et eux qui n'ont évidemment plus d'électricité, plus de téléphone pour leur indiquer l'heure, qui ont très peu de montres, enfin moi j'en ai pas, assez vite, au bout de quelques mois, ils perdent le sens du temps. Et puis j'aime aussi l'idée que le roman se déploie sur un territoire qui est le sien. Cette île, on ne sait pas si elle existe, on ne sait pas où elle se trouve, elle est au milieu de l'Atlantique, mais est-ce qu'il y a des îles au milieu de l'Atlantique? À moins d'être un grand océanographe, on ne le sait pas très bien. Et puis elle se déploie dans un temps qui lui est propre, le temps du roman.
Bon, et nous on fait de la radio, on est un peu pointilleux sur la question du temps. On se retrouve dans un instant, on va écouter la première page de Sa Majesté des Mouches. Il y a quelques échos, quelques ressemblances avec votre propre roman. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Chabi Molia pour Des jours sauvages, au seuil, une histoire de naufragé. C'est aussi le cas dans le roman culte de cette semaine, Sa Majesté des Mouches, signé William Golding, publié en 1954. L'histoire d'une quinzaine d'enfants, ils sont dans un avion, mais il y a un problème, c'est le crash. Aucun survivant chez les adultes, les enfants sont livrés à eux-mêmes, ce sont des garçons cultivés, bien élevés, pas de problème. Ils commencent à s'organiser, les choses se passent bien au début, mais petit à petit la nature sauvage de l'île et des humains va reprendre le pouvoir. Chaque personnage est un symbole, un archétype, l'autorité, l'intelligence, la brutalité, etc. Ça donne un chef-d'œuvre. On écoute la première page lue par le comédien Philippe Dussault, qui a toujours son âme d'enfant bien sûr.
Chapitre 1er. L'appel de la conque. Le garçon blond descendit les derniers rochers et se dirigea vers la lagune en regardant où il posait les pieds. Il tenait à la main son tricot de collège qui traînait par terre, sa chemise adhérée à sa peau et ses cheveux lui collaient au front. Autour de lui, la profonde déchirure de la jungle formait comme un bain de vapeur. Il s'agrippait péniblement aux lianes et aux troncs brisés, quand un oiseau, éclair rouge et jaune, jaillit vers le ciel avec un cri funèbre. Aussitôt, un autre cri lui fit écho. « Hé ! Attends une minute !» dit une voix. La végétation à la limite de la déchirure frémit et 1000 gouttes de pluie s'égrenèrent sur le sol. « Attends un peu !» répéta la voix. « Je suis accroché !» Le garçon blond s'arrêta et se débarrassa de ses chaussettes d'un geste machinal. L'espace d'une seconde, son geste évoqua le cœur de l'Angleterre et la jungle fut oubliée. La voix se fit entendre à nouveau. « Je peux à peine bouger avec toutes ces espèces de lianes !» Celui qui parlait sortit à reculons des broussailles et des brindilles s'accrochèrent à son blouson graisseux. À la pliure des genoux, des épines mordaient sa peau nue et grassouillette. Il se baissa, les enleva soigneusement et se retourna. Plus petit que le blond et très gras, il s'avança en cherchant les endroits où poser les pieds et il leva les yeux derrière ses lunettes à verre épais.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'était la première page de Sa Majesté des Mouches de William Golding, lu par Philippe Dussault. Merci à lui. Chabi Molia, vous êtes toujours avec nous. Vous avez pensé à ce roman pendant la rédaction du vôtre, ou avant d'ailleurs ?
J'ai fait plus qu'y penser, je l'ai lu. D'ailleurs, j'ai essayé de lire beaucoup de Robinsonnade pour voir aussi dans quel territoire littéraire je me situais. J'ai relu L'île mystérieuse de Jules Verne, 2 ans de vacances. J'ai relu évidemment...
L'île du Docteur Moreau.
L'île du Docteur Moreau, Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier, qui d'ailleurs m'a un peu gêné parce que je trouve que c'est davantage un essai qu'un roman. C'est une langue magistrale, mais c'est un roman qui pense beaucoup et qui affirme beaucoup. Et puis, j'ai relu Sa Majesté des Mouches en pensant que j'allais lire un livre pour adolescents. Parce que comme certains de ces livres, comme 1984 jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, ça fait partie de ces livres cantonnés à la littérature jeunesse. Mmh. Alors la littérature jeunesse, on s'attend toujours à ce que ce soit des histoires un peu simples, un peu plates. Et en fait, c'est tout le contraire. Sa Majesté des Mouches, c'est un livre d'une extraordinaire modernité d'écriture et surtout d'une grande opacité. C'est un livre où on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce qu'on est dans l'esprit des enfants. On est dans une rationalité en construction où les fantasmes s'infiltrent, où la violence est toujours là, au coin de la page. Je trouve que c'est un livre extraordinaire.
Et justement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre comme ça de Robinsonnade. Quand vous avez commencé à écrire ou quand vous avez eu l'idée de ce roman-là, est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça a déjà été fait, avec quel brio ? Est-ce qu'on n'est pas un peu intimidé, quoi ?
Alors, je crois que si on est intimidé, il faut pas écrire. On commence jamais à écrire un premier roman. Et il faut une sorte d'audace et peut-être d'impertinence dans le fait de se dire je vais écrire un livre alors que Proust a déjà écrit ou Shakespeare, vous voyez. Non, moi j'ai plutôt cette sensation que certains grands motifs littéraires ont toujours une forme d'actualité et que chacun va le personnaliser. Moi j'y arrive avec une certaine culture qui est le goût du roman, le goût de la péripétie. J'avais envie d'écrire un roman d'aventure, j'avais envie d'écrire un roman de guerre aussi, un roman sec. Donc je me disais, bon, ça a peut-être déjà été fait, mais tant que je ne l'ai pas vu, je vais m'autoriser à prendre la suite de cette glorieuse tradition.
À suivre, visite de bibliothèque, rendez-vous chez Stéphane Bern dans un instant, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Stéphane Bern qui vient de publier son 10e tome de Secrets d'Histoire chez Albin Michel et son magazine Mission Patrimoine. C'était l'occasion de visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
On est à l'étroit, hein. On est un peu coincé
voilà,
par les.
C'est ce que j'allais dire, mais à la fois on est à l'étroit dans votre petit bureau,
oui.
Mais on est en même temps au paradis parce qu'il y a quand même des livres. Alors, non seulement sur tous les murs, ils sont tapissés de livres, mais par terre, il y a des piles de livres. Et je ne sais pas, à la louche, il y a une trentaine de grandes piles de livres qui arrivent à mi-hauteur d'homme.
Oui. C'est un peu c'est... ici, les gens n'osent pas entrer dans mon bureau, justement. C'est un peu une forteresse. Il faut montrer patte blanche pour entrer. Je me cache derrière mes livres.
Oui, et à la fois, il est juste dans l'entrée, il y a le hall, et il y a une porte qui donne sur votre bureau. Et effectivement, je vous ai vu, vous étiez dans votre bureau. Je n'ai pas osé rentrer tout de suite.
Oui.
J'ai attendu le feu
ça
vert.
Protège, ça me protège.
Non, mais comment vous expliquez ça?
J'explique ça, c'est qu'au fond, les j'ai un rapport très particulier avec les livres. Et les livres me protègent, en fait, naturellement. Ici, j'ai quelques maisons, j'en ai pas énormément, mais j'ai beaucoup de bibliothèques. Et je ne sais pas acheter un livre, donc je garde tout. Donc d'abord, je les empile, ensuite je les lis, j'en mets sur la table de chevet, un peu partout près de mon lit. Et puis une fois qu'ils sont lus, ils sont rangés dans la bibliothèque. Puis quand ça déborde, alors on fait des tris, on sort les livres. Et mon rêve, j'ai des rêves secrets, c'est de ranger la bibliothèque. Je ne sais pas si ça vous arrive de rêver,
pendant
d'imaginer.
Pendant le confinement, ouais.
Oui. Et puis, en fait, je l'ai fait, puisque j'étais confiné à la campagne, et là-bas où j'ai de grandes bibliothèques, j'ai rangé les livres. Mais là, au fond, vous savez, ici, sont concentrés que des livres d'histoire, uniquement des livres d'histoire, pratiquement, ou des livres, des documents sur l'histoire des monarchies européennes, qui a fait quand même ma réputation pendant un temps.
Juste pour décrire un tout petit peu, c'est une pièce carrée d'environ 15 mètres carrés,
oui.
Et qui est donc, il y a un grand meuble qui fait tout le tour, un grand meuble bleu, d'un très beau bleu,
oui.
Et puis il y a au fond un bureau, un petit bureau.
Oui.
C'est quoi, c'est, je veux dire,
un petit bureau Louis XVI.
Non,
c'est
Louis XVI, d'accord.
Un petit bureau Louis XVI d'époque, pas très grand.
C'est là que vous écrivez ?
C'est là que j'écris, mais lui-même, vous voyez, mon espace d'écriture recule avec les papiers, les enveloppes.
Je vois pas d'ordinateur.
Si, il est là.
Ah oui, d'accord,
il était caché. Les ordinateurs portables, maintenant, ils sont de plus en plus réduits. Et puis, c'est là que j'écris, c'est là que je fais tout, à peu près.
Il y a plein de souvenirs aussi, j'ai l'impression.
Il y a plein de souvenirs, il y a des photos, quelques photos dédicacées.
On va en venir au livre avec une porte un peu particulière, parce que juste à côté de ces photos-là, vous avez une pièce d'époque, j'imagine.
Oui, c'est doublement touchant. C'est marqué, c'est un panneau qui était sur beaucoup de maisons, fermé pour cause de deuil national, obsèques de Victor Hugo.
Ouais.
Il se trouve que Victor Hugo a vécu ici. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans son livre « Choses vues », qu'il a écrit d'ailleurs en partie dans cette maison.
Je signale qu'on ne sommes pas Place des Vosges, hein, parce qu'il a aussi Place des Vosges.
Il a eu plein de maisons.
Voilà, voilà.
Mais quand il est rentré d'exil, c'est d'abord installé là quelques temps, puis ensuite il est parti. Et comme vous le savez, il est allé vivre avenue Victor Hugo.
En son avenue.
En son avenue. Ce qui est merveilleux.
C'est chic.
Oui.
La rue Stéphane Bern, vous y avez déjà pensé,
non? Non, il vaut mieux pas y penser. Ça voudrait dire que je ne suis plus là.
Il n'y a même pas des écoles et trucs comme ça.
Pas encore, non, ni des.
Ça va venir.
Non, rien n'est peut-être. Des salons de coiffure.
On parlait de Victor Hugo, mais je crois que malheureusement ici il n'y a pas de romans.
Si ? Il y a très peu de romans. En fait, dès que les romans, je les lis quand je suis en vacances. Donc ils sont tous ou en Grèce ou à la campagne dans le Perche, où là j'ai beaucoup, par exemple, j'ai tout je sais pas, ça peut être Jean d'Ormesson, toute l'œuvre de Jean d'Ormesson dédicacée.
Vous en lisez ?
Ah oui, je lis beaucoup de romans. Il y a quelques romans, il y a les derniers romans qui doivent être par là. Alors bon, faut pousser des piles, vous voyez. Bon, en même temps, il y a il y a le Ken Follett, par exemple, qui vient d'arriver.
Le dernier Franck Ferrand.
Voilà, j'ai l'un des derniers romans, Camille Pascal, La Chambre des Dupes. Alors,
ce sont des romans de la rentrée, quoi.
Les romans de la rentrée qu'on m'envoie, que je lis et qu'ensuite j'expédie. j'expédie en Grèce.
Mais quels sont vos romans cultes? Qu'est-ce que vous avez là-bas, à la campagne? Vraiment les trois romans qui sont au centre de la bibliothèque. Vous savez où ils sont si vous les cherchez pour en relire un passage et tout ça.
J'ai une passion pour Jean d'Ormesson. Donc j'ai toute la collection, tous les romans de Jean d'Ormesson. Ça paraît bizarre, mais cet homme arrivait à me toucher. D'abord, je le voyais beaucoup.
Ça change tout de connaître l'auteur aussi, quand même.
Ça change beaucoup de choses, mais je le lisais avant. J'ai commencé sans le connaître. Je lisais au plaisir de Dieu. Et donc, je voyais que mon univers, en tout cas fantasmé ou fantasmagorique, correspondait à son véritable univers. Donc, j'ai pris l'habitude de le lire.
On parlait de romans et je vois un ouvrage sur Oscar Wilde.
Oui.
Et quelque chose me dit que vous avez une fascination pour lui.
J'adore
comme
Oscar
votre
Wilde.
Grand ami Franck Ferrand.
Exactement. Oui.
Vous faisiez partie de son association des amis,
bien
là
sûr,
oui, d'accord.
J'étais ou vice-président, ou je ne sais pas ce que j'étais, mais il m'a écollé là, Franck. De toute façon, Franck est mon meilleur ami, donc je le défendrai. Je le suivrai où il veut, mais...
Ça nous fait un point commun, j'adore Oscar Wilde aussi. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui?
Ben, écoutez, voilà le type, j'ai raconté ça sur scène dans Vous n'aurez pas le dernier mot, la mort d'Oscar Wilde.
Arrêtez, je vais pleurer.
Il demande une coupe de champagne et il dit, décidément, je vis vraiment au-dessus de mes moyens. Et je trouve ça merveilleux. Il meurt en disant, je ne sais pas si c'est ce papier peint qui disparaît ou moi. Il commence à voir flou. Je trouve, voilà un homme, il faut résister à tout, sauf à la tentation, il faut faire ses aphorismes, ses pensées. C'est une façon de regarder la vie. Les gens disent qu'il est cynique, je ne crois pas. Je crois qu'il a au contraire, une façon de regarder la vie avec beaucoup de distance et une sorte de désespoir joyeux. Et ce désespoir joyeux, c'est le mien et c'est celui de Jean d'Ormesson hein, aussi.
Je vois quelques Pléiades là dans un coin. Je regarde
oui,
juste.
Il y en a pas mal. Non,
j'ai essayé de ne pas faire écrouler la colline de livres.
On peut pousser les.
Ah oui, il y a Conrad, il y a Racine.
Oui, et puis là, regardez.
Il y a Monterland.
Non, il y en a encore
oui.
Pas mal là.
Jean d'Ormesson,
Georges Duby, les œuvres
formidables. Ah, Oscar Wilde.
Il y a du Oscar Wilde.
Ah, vous avez plusieurs exemplaires de Conrad.
Oui. J'ai Jean Cocteau, voilà. Albert Camus, évidemment.
Ah, Stefan Zweig. Ça, c'est intéressant parce que Stefan Zweig, c'est une manière de raconter l'histoire avec un style de romancier.
Quelque part, j'ai tout Stefan Zweig pour une raison simple. D'abord, parce que je me reconnais beaucoup en lui, un peu déraciné, mes origines familiales, l'Autriche. Je vais beaucoup à Vienne. Je suis allé voir sa maison à Petropolis. Je suis allé voir là où il a fini sa vie, là où c'est.
Ça vaut le coup.
Suicidé. Non, la maison n'a aucun intérêt, pour être honnête. Mais tout de même, il y a.
Vous aimez les lieux d'écrivains comme
j'adore
ça.
J'adore les maisons d'écrivains. Oui. J'étais chez Émile Zola à Médan pour un tournage la semaine dernière. J'adore chez Colette, la maison de George Sand aussi. Non, ce qui est intéressant à Petropolis, quand on va chez Stefan Zweig, c'est de penser qu'il y a un jeune coopérant autrichien, et je crois qu'ils ont 5 coopérants dans le monde, dont un qui est chargé de s'occuper de la maison de Stefan Zweig. C'est dire qu'il imprègne encore la culture autrichienne. Et au-delà, je trouve que ce monde d'hier, moi j'ai... Peut-être c'est ce qui me rend aussi comme un garçon très nostalgique, c'est ce monde d'hier de Stefan Zweig. J'ai connu un monde qui n'existe plus, que plus personne ne connaîtra. Un monde qui s'est écroulé parce que la consommation, les téléphones portables, la modernité, tout ça a fait voler en éclats ce monde d'hier que moi je chérissais.
Ah, parce que j'allais dire, malgré les apparences, je crois que vous êtes bien dans votre époque. Et j'allais vous demander ensuite quelle est l'époque où vous auriez aimé vraiment vivre.
J'adore vivre dans cette époque, je me sens vraiment à l'aise dans cette époque. La seule chose, c'est que mon imaginaire me porte plus vers le 19e siècle.
Plutôt 19e ?
Oui, oui. Bah oui, parce que d'abord, dans tous les pays, c'est à la fois l'Allemagne avant qu'elle ne fût unifiée, en tout cas telle qu'elle était dans la Confédération du Rhin de Napoléon, mais pas l'Empire de Bismarck. Ensuite, l'émergence des nationalités avec la Grèce qui secoue le joug ottoman. On va célébrer là en 2021 le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce. Je trouve ça formidable, moi qui ai une maison depuis 22 ans, je crois, en Grèce. J'adore les Grecs pour ça aussi. Ils ont une forme comme ça d'indépendance. Non, j'adore le 19e.
Vous n'auriez pas aimé vivre dans l'Ancien Régime ?
Oh, pas du tout. Non, d'abord, parce que si j'avais vécu dans l'Ancien Régime, j'aurais pas été un petit marquis poudré. J'aurais été un palefrenier qui aurait mangé les légumes par la racine. Et je peux vous dire, vu mes origines familiales, il y avait peu de chances que je sois du bon côté de la barre. Il ne faut jamais oublier ça. Vous savez, tous ces gens qui sont nostalgiques d'un temps ancien, ils imaginent des robes à paniers, des perruques, des trucs. Mais on a envie d'en dire.
0,5%.
Oui, voilà. Moi, vu mes origines, mais j'aurais même pas pu entrer à Versailles, vous voyez. Donc il faut pas oublier.
Ah, vous seriez débrouillé.
Non, je me serais peut-être débrouillé, je ne sais pas, mais je sais d'où je viens. J'ai pas honte de mes origines, des origines très modestes. Et en revanche, on s'est élevé par la culture. Et je n'oublie jamais une chose. C'est pour ça que j'ai le respect pour les livres. C'est que on n'avait pas de télévision quand dans mon enfance. C'est mon frère et moi qui avions offert la télévision à nos parents pour leurs 25 ans de mariage, c'est vous dire. Mais on n'avait que des livres. Donc ma seule façon d'échapper au réel, c'était de lire. Et je pense toujours à cette phrase de Bernard Pivot qui m'a fasciné. Il m'a dit, on n'a qu'une vie, mais avec les livres, on peut en avoir des milliers.
Merci beaucoup Stéphane Bern pour
merci,
cette visite.
Non, mais merci
on
à vous.
On va rester quelques heures encore, mais on ne va pas vous déranger plus longtemps.
Ah, pour votre patience surtout, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi faire.
Merci Stéphane.
Merci à toi.
De retour en studio, je rappelle la sortie de Secrets d'Histoire, tome 10. C'est chez Albin Michel de Stéphane Bern. Chabi Molia, vous êtes toujours avec nous pour votre roman Des jours sauvages au seuil. Comment allez ranger votre bibliothèque à vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup de livres de documentation comme Stéphane Bern de travail ? Ou alors ce sont des livres plaisir ? Est-ce qu'ils sont bien classés ? Est-ce que vous les prenez, vous les donnez ? Voilà, il y a un turnover, comment ça se passe ?
Le classement de la bibliothèque, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que c'est comme une utopie, c'est un projet impossible. Il est impossible de ranger correctement une bibliothèque. Si vous essayez de mettre des essais d'un côté, des romans de l'autre, très vite vous tombez sur des formes hybrides, donc vous ne savez pas où les mettre, et puis ça ne marche pas. Alors moi, j'ai eu un recours à un truc très simple, c'est que je les classe par couleur. Parce qu'en fait, j'ai envie de les retrouver. Et je sais que, voilà, un livre, je me souviens qu'il est rouge, alors il est du côté des livres rouges. Alors évidemment, vous me direz, il y a beaucoup de livres blancs, alors ceux-là, ils sont classés par collection, parce que souvent j'ai le souvenir que c'était chez Gallimard ou que c'était aux éditions de Minuit. Et puis ensuite, ça c'est le classement de départ. Et puis alors au fil des ans, il y a un désordre qui s'est installé. Et alors maintenant, il y a des lieux préférés. C'est-à-dire qu'il y a une étagère, par exemple, avec les livres que je me suis promis de lire avant d'avoir 40 ans. J'en ai 42, j'en ai toujours lu que le tiers. Il y a une étagère, c'est vraiment mais les livres préférés, les 15 livres qu'il faut absolument que j'emmène. Voilà. Et puis, il y a évidemment aussi une sorte de purgatoire, c'est-à-dire les livres avec lesquels je pense qu'il faudrait les jeter. Ma compagne est contre, donc ils sont tout en haut. Je les mets tout en haut d'une bibliothèque pour les voir le moins souvent possible.
Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons donc chez Christophe Daniel à son comptoir puisque la librairie La 25e Heure à Paris est en click et collecte. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Bon alors aujourd'hui je ne suis pas rentré par la porte, la grande porte de la librairie. Vous êtes venu m'ouvrir sur le côté, sur la petite porte de l'immeuble, parce que bah, forcément, tout est fermé, clic et collecte. Comment ça se passe ?
Eh bien, on s'adapte. Hein. C'est vrai que la librairie est entrouverte, donc sur le mode de click and collect. C'est-à-dire qu'on passe la matinée à traiter les commandes qui nous arrivent par mail, par coup de téléphone. Et l'après-midi, 7 jours sur 7, on est là pour que les gens puissent retirer leurs commandes. Donc c'est sportif et c'est une façon un peu paradoxale de travailler pour un libraire. Nous, on aime bien prendre notre temps. Ce n'est pas pour rien que la librairie s'appelle la 25e heure. Et là on court partout et on n'a pas vraiment la possibilité d'échanger très longtemps avec nos clients et ça nous manque.
Et avec vos journalistes. Mais ça veut dire que vous vendez quand même des livres, ça c'est la bonne nouvelle.
Oui, ça c'est la bonne nouvelle, on vend des livres et puis je voudrais remercier tous les clients, les amis de la librairie qui viennent vraiment tous les jours pour nous soutenir, nous encourager et acheter des livres.
Quel est le livre justement on vient chercher en click et collect ?
Eh bien écoutez, Noël approche, alors j'avais envie...
Oh là 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 là, c'est pas grave, mais Marie-Ève de Saint-Mandé de la librairie Parole
nous a déjà parlé de ce livre, mais je veux bien que vous nous en disiez un mot quand même, parce qu'effectivement, c'est superbe.
Ah bah, Marie-Ève a dû très bien en parler, parce que c'est une très bonne libraire, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Le Trame de Noël, c'est un conte de Noël, un hommage clairement à Dickens. Et c'est écrit par José Calachura, qui nous avait gâté avec un magnifique roman l'année dernière, qui s'appelait Borgo Vecchio. Donc là, c'est un petit conte. On est la nuit de Noël, un tram qui quitte la ville pour aller dans les périphéries. Et un bébé noir est abandonné dans ce tram. Et successivement, on va voir des passagers qui sont des précaires de la vie monter dans ce tram. Et il va se passer quelque chose avec ce bébé abandonné et la relation entre tous ces souffrants de la vie. Et comme toujours chez Calachura, il y a une grande dimension sociale et poétique. C'est magnifique. Chez Notabilia, le Trame de Noël.
Parfait. Ensuite, vous en avez quatre aujourd'hui, dites donc.
Ah ben, j'ai beaucoup aimé et beaucoup lu ces derniers temps. Et parmi les romans qui m'avaient échappé à la rentrée littéraire, mais j'ai rattrapé mon retard, il y a le roman de Victor Pouchet, Autoportrait en chevreuil, chez Finitude. Alors là, on est dans une histoire à trois voix. La première, c'est celle d'Elias, un jeune homme qui travaille dans une bibliothèque et qui a vécu une enfance plutôt douloureuse, abîmée, avec un père très curieux, tyrannique. C'est un magnétiseur. Ils vivent tous les deux, parce que la mère est décédée, ils vivent tous les deux en Bretagne. Et Elias va nous raconter cette enfance compliquée et avec des drames. Et puis, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir grâce à l'amour que lui porte Alice? Et Alice, c'est la seconde voix du livre. Et puis, toute dernière voix, celle du père, justement.
Avec en couverture un joli canevas avec un chevreuil.
Oui, très beau canevas. Oui, c'est vrai.
Vite, il vous en reste deux. Quelle horreur de parler trop rapidement des livres, mais ouais. Bon, c'est comme ça.
Surtout de celui-ci que j'adore vraiment, Jon Kallman Stefansson. Chaque livre de Stefansson sont des petits bijoux et celui-ci ne déroge pas à la règle. Ça s'appelle « Lumière d'été, puis vient la nuit », c'est chez Grasset. Et là, on est dans un petit village de 400 âmes perdues au fin fond de l'Islande. Et on va suivre, c'est la chronique de ce petit village, avec un mélange de drames, de choses plus réjouissantes. Il y a par exemple un directeur d'entreprise qui tout à coup va avoir sa vie complètement changée parce qu'il va faire un rêve en latin, une langue qu'il ignore totalement.
Allez, là c'est un cadeau de Noël.
Là c'est un cadeau de Noël et c'est un magnifique cadeau de Noël qu'on attendait avec impatience. C'est le deuxième volume du livre de Jérôme Soligny, David Bowie, Rainbow Man. Donc le premier volume était sorti il y a 2 ans et couvrait les années 1967-1980. Là on est 1983, Let's Dance, jusqu'à 2016, Black Star et le décès de David Bowie. Pour moi, c'est l'ouvrage essentiel, les deux ouvrages essentiels à posséder sur David Bowie quand on aime son œuvre. Parce que là, Soligny s'intéresse vraiment à l'œuvre uniquement et pas à la biographie. Mais forcément, l'œuvre et l'homme se rejoignent dans beaucoup des disques de Bowie.
Et c'est un beau livre grand format.
C'est un beau livre grand format, c'est publié chez Gallimard.
Merci beaucoup Christophe.
Merci Nicolas.
Bon courage pour le clic et collecte.
Merci.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande, son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine donc, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Salut Victor.
Salut Nicolas.
Aujourd'hui, c'est un conte musical et le titre, c'est La bergère aux mains bleues de Pierre-Luc Grangeon. Mise en chanson par Amélie Les Crayons.
Exactement.
Mise en chanson, ça j'aime bien. Ouais.
C'est beau, ouais. Sur la première image de ce très beau conte, on voit la bergère Madeleine avec ses deux enfants, Gaël et Erel, qui regardent justement un bateau s'éloigner à l'intérieur.
Tiens.
Le papa, Kellen, qui prend le large. Chaque année, c'est la même chose. Les hommes s'en vont, leur famille reste à quai. Madeleine, c'est une bergère donc qui vit sur une île. Et c'est drôle car ses moutons l'accompagnent partout, ils ne la quittent absolument jamais.
Et qu'est-ce qu'ils font pendant l'absence du père ?
Exactement, l'automne et l'hiver se sont écoulés, le temps s'étire, l'ennui est palpable. Un jour, Gaël et Erel partent pêcher sur une petite barque pour tuer le temps. Le petit garçon attrape un poisson d'argent extrêmement brillant, pas vraiment ce qu'on trouve généralement dans ces eaux-là. Un poisson qui va enfermer le petit garçon dans la solitude, il va le couver Gaël ne veut plus parler, rien faire ou presque, et plus le garçon se referme sur lui, plus il maigrit, et plus le poisson d'argent grossit. Un jour, Madeleine n'en peut plus, elle décide de le remettre à l'eau, elle l'attrape à pleine main, le relâche, sauf que très vite, ses mains bleuissent de froid.
Mais qui donc es-tu ? Pour briller autant et envoûter l'âme des enfants. De quoi es-tu fait ? Pour être aussi froid et voler la vie qui est en moi. Je pourrais te dire que je te déteste, mais tu m'attires et je veux.
Alors au fur et à mesure justement de ce conte, ils vont essayer de comprendre d'où vient ce poisson. Mais je m'arrête là bien évidemment, parce que sinon je vais vous raconter
du congélateur.
Non, pas du congélateur, mais des profondeurs de l'océan.
C'est chouette en tout cas. Question rituelle, à partir de quel âge peut-on lire cet album ?
À partir de 6 ans, c'est totalement adapté. Les illustrations sont magnifiques. On a l'impression d'être aux côtés vraiment de la bergère, de ressentir le froid de ce poisson d'argent. Et puis il y a ces moutons qui sont toujours avec elle, qui la réchauffent justement sur la rive, sur le bateau. Ils sont partout à ses côtés.
Et on rappelle le titre de ce conte musical, La bergère aux mains bleues. Pierre-Luc Grandjean, illustré par Samuel Ribeiro. Mise en chanson par Amélie Lécrayon aux éditions Margaux. Merci Victor.
Voilà, plaisir.
Chabi Molia, vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu ?
Ouais, je me souviens très bien parce que j'étais un très mauvais lecteur. Je lisais très peu parce que les histoires me faisaient très peur. Fantomètre, le club des cinq, tout ça.
Le club des cinq, ça vous faisait peur ?
Dès qu'il y avait les personnages avaient des problèmes, je trouvais que c'était. Alors, mes parents essaient de me dire oui, mais une histoire sans problème, c'est pas possible. Et un jour, je voyais assez peu mon père, il travaillait beaucoup.
Quand on voit ce que vous écrivez aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Et mon père était une figure assez énigmatique dans ma vie. Il passait comme ça le soir. Et un jour, il arrive avec un bouquin. Il me dit, tiens, j'ai vu ça. Ça va peut-être t'intéresser. Hop, il part. T'es un homme assez bourru. Et il me remet entre les mains un livre de Jules Verne, assez court, qui s'appelle Une fantaisie du docteur Ox, qui n'est pas très connu, qui est une tentative... Jules Verne s'aventure dans l'humour. Alors, je ne sais pas si c'est très réussi, mais c'est un livre court. Et surtout avec ce titre étrange, Une fantaisie du docteur Ox. Je ne comprenais pas très bien ce que c'était. C'est l'histoire d'un savant fou dans une bourgade allemande. Je ne sais plus très bien ce que ça raconte. Mais le titre m'est resté. Et voilà. Et un livre qu'on vous offre, qu'on vous donne, c'est quand même souvent un appel à lire. Et
à quel âge il vous offre justement ce livre ?
Je devais avoir 8 ans ou 9 ans. Voilà.
Et vous rentrez dedans ?
Et je rentre dedans parce que j'ai envie de comprendre qui est mon père. Et je me dis, s'il m'a offert ce livre, c'est que peut-être il y a une clé à ouvrir. Et donc, je l'ai lu un peu pour cette raison-là.
Super.
Merci beaucoup, Chabi Molia. Des jours sauvages à offrir à tout le monde. C'est au seuil. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.